Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la démocratie en Afrique. La démocratie en Afrique, tours et détours, est le titre du dossier du dernier numéro de Politique étrangère, publication de l'IFRI. Nos invités, Thierry Vercoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI et enseignant à Sciences Po Paris, bonjour.
Bonjour.
Alain Antil, directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, bonjour.
Bonjour.
Et Marc-Antoine Pérouse de Monclos, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait le choix pour ce dossier sur la démocratie en Afrique de suivre pour quelques pays, Mauritanie, République démocratique du Congo, Centrafrique et Nigeria, l'avancée ou le recul des institutions et des procédures démocratiques. Vous constatez deux choses. La première, que les milieux politiques jouent dans ces pays, dans leur grande majorité, contre la logique démocratique. Les pouvoirs en place pour y rester, les oppositions pour y arriver et en y préservant les mêmes mœurs, et les sociétés civiles qui peinent à constituer le vivier politique hors duquel nulle démocratie ne s'enracine. Second constat, celui de la naïveté ou de l'hypocrisie des intervenants extérieurs. Vous estimez que les pays riches, autoproclamés vecteurs de la démocratisation, pressés par leur propre temps électoral et médiatique, n'ont au final ni les moyens ni la volonté du long terme, alors que le temps de la conversion démocratique est un temps long. En France, près d'un siècle a séparé la révolution de la stabilisation de la République. Ce double constat pousse-t-il au fatalisme devant l'entêtement, voire le retour de l'autoritarisme ou à défaut la non-progression de la démocratie sur son continent ? En fait, depuis 10 ans, on assiste peu ou prou à un retour de l'autoritarisme ?
Oui, on peut dire qu'après la vague de démocratisation des années 90, on a une forme de reflux maintenant, avec une vague d'autoritarisme qui se note aussi bien en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. Il y a des pays comme la Tanzanie et la Zambie qui ont pendant longtemps été considérés comme des démocraties plus ou moins exemplaires, qui sont actuellement dirigées par des présidents autoritaires et très intolérants à l'égard de l'opposition. Donc on a ce phénomène de reflux. On a aussi, on le voit, des demandes démocratiques très pressantes actuellement au Soudan et en Algérie. Et en Éthiopie, il y a une tentative de libéralisation du régime. Donc on a un paysage qui est assez contrasté, mais qui est quand même assez largement dominé actuellement par peut-être une crise de la démocratie, en tout cas des doutes très forts sur la démocratisation en Afrique et ses bénéfices. De l'autre côté, un discours qui parle plus de l'autoritarisme et des bénéfices de l'autoritarisme et qui s'inscrit dans une évolution internationale soutenue par des pays extérieurs qui s'impliquent de plus en plus en Afrique, que ça soit la Chine, la Russie ou les pays du Golfe, qui ne sont pas des démocraties et qui, on voit sur la scène internationale, forment un peu la ligue des dictateurs extraordinaires.
Alors, on reparlera effectivement du contexte international dans lequel s'inscrit ce reflux de la démocratie en Afrique. Alain Antil, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, par rapport à ce qui vient d'être dit, vous partagez, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Il y a une grande diversité de cas de figure. Ce qui reste indéniable, c'est quand même qu'il y a une situation tranchée entre la période de la guerre froide, quand le continent était surtout dominé par des dictatures militaires et des régimes de parti unique. Mmh. Et puis ce qu'on a aujourd'hui, qui sont effectivement... Démocratie est un bien grand mot, c'est-à-dire qu'on est dans un entre-deux, vous voyez, avec des parcours un peu en dents de scie. Alors de temps en temps, il y a un retour de l'autoritarisme, quelquefois il y a un peu de libéralisation. Donc c'est des régimes qu'on a du mal à qualifier, ils sont pas complètement démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire. Les élections sont souvent frauduleuses, il y a des assassinats politiques, etc. Certains parlent d'anocratie, de simili-démocratie, de démocrature, par exemple. En revanche, c'est vrai que voilà, les régimes de partis uniques se sont efforcés de s'ouvrir au multipartisme, mais simplement le résultat des élections est souvent faussé. Voilà, c'est un peu le souci. Mais encore une fois, par rapport à la période de la guerre froide, on a quand même eu des avancées qui, aujourd'hui, restent incontestables. Maintenant, il y a toujours des blocages et des pays fossilisés comme l'Érythrée. On l'a décrit comme la Corée du Nord de l'Afrique. Ces régimes-là continuent de sévir. Mais ailleurs, il y a eu des progrès quand même.
Alain Antil.
Oui, il y a des avancées par rapport à la période de la guerre froide, qui était vraiment une période où les dictatures voisinaient les autres dictatures. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire dans le dossier, c'est de comparer par rapport à la période des conférences nationales et de ces espoirs qui sont nés à cette époque où effectivement les régimes de parti unique se sont ouverts, et une ouverture du champ démocratique, médiatique, une liberté d'association. Donc c'était intéressant, presque 30 ans après, de voir où on en était. Évidemment, il y a des trajectoires nationales, il y a des progrès, mais ce qui a suscité aussi le désir de faire ce dossier, c'est que depuis une dizaine d'années, comme le disait Thierry tout à l'heure, dans des pays qui étaient un peu leaders, enfin exemplaires de ce point de vue, on a des phénomènes de régression qui sont inquiétants. Alors peut-être temporaires, on l'espère, mais ça méritait au moins d'être souligné. Et pour l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ce qu'on voit au Bénin actuellement est tout à fait, disons, affligeant pour un pays qui était cité comme un exemple. Pendant très longtemps, le Mali, lui aussi, était cité comme un exemple de démocratie. Et on a vu que on s'efforçait à avoir une démocratie qui fonctionnait au Mali et on ne voyait pas un pays qui était en train de s'effondrer sur lui-même pendant toute la décennie qui a précédé 2012.
Alors, vous parlez, Marc-Antoine Pérouse de Monclos évoquait la démocrature. Un autre terme que vous employez dans ce numéro de Politique étrangère, c'est le terme de régime hybride. Vous parlez de la domination des régimes hybrides, c'est-à-dire qu'on a finalement des élections sans démocratie. Si la démocratie ne semble guère progresser, est-ce qu'elle est pour autant supplantée par son exact opposé, les juntes? Si elles sont passées de mode d'une certaine façon, ces juntes, est-ce que ça signifie que l'armée ne joue pas en coulisses un rôle parfois fondamental dans le système politique? Par exemple, il y a le Zimbabwe, le Soudan. Quel rôle pour l'armée aujourd'hui en Afrique? Thierry Vercoulon.
On voit qu'en effet, les juntes sont passées de mode, mais il y a un certain nombre de régimes en Afrique qui sont où le pouvoir militaire et le pouvoir derrière le pouvoir, c'est-à-dire le cœur des choses. On le voit bien avec ce qui se passe au Soudan et au Zimbabwe, où en fait Bachir et Mugabe, au pouvoir depuis très longtemps, ont été démis par le pouvoir militaire. Et on voit que maintenant le vice-président zimbabwéen est l'ancien chef d'état-major, et donc les masques sont tombés sur qui a fait quoi à ce moment-là. Et on voit aussi ce qui s'est passé au Soudan avec le chef des services de renseignement. Je pourrais parler d'autres régimes, mais on voit que ces régimes militaires ont mis des habits civils, peut-être aussi en Mauritanie d'une certaine façon. La raison pour laquelle les armées et les chefs des armées continuent à jouer un rôle politique aussi important, c'est essentiellement pour préserver leur position économique privilégiée et leur privilège économique dans ces régimes politiques où l'armée au Zimbabwe, au Soudan aussi probablement, contrôle une bonne partie de l'économie du pays.
Alors, est-ce que l'exemple algérien relève de ce que vous venez d'évoquer, Thierry Vercoulon, sur le Soudan?
Oui, je crois que l'Algérie aussi entre un peu dans cette même catégorie.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Il y a plusieurs cas de figure. Il y avait des cas de figure où on avait effectivement des militaires au pouvoir, enfin d'anciens militaires ou des militaires d'actifs même, mais qui avaient revêtu des habits civils, hein, ce qui était le cas au Soudan. D'autres cas où c'est l'armée qui en sous-main continue d'essayer de tirer les ficelles. Mais là, il y a un point important qu'il faut noter, c'est que les armées ne sont pas des blocs monolithiques. C'est-à-dire, vous avez aussi différentes tendances. C'est un peu comme les régimes de partis uniques autrefois, où en fait, le pluralisme, si on peut dire, se jouait à l'intérieur des partis uniques. Et puis, il y a des pays où finalement, l'armée joue un rôle très, très effacé. Je ne sais pas, le Botswana qui me vient tout d'un coup à l'esprit, ou l'île Maurice, ou même le Sénégal, hein, qui est un exemple où là, il y a un raidissement quand même. Il y a eu des soucis, on va dire, une certaine crispation, autoritarisme est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, des tendances un peu inquiétantes comme au Bénin. Néanmoins, l'armée continue d'être sous la tutelle du civil, et ça, c'est pas remis en cause. Donc, on a vraiment des cas de figure extrêmement variés sur le continent. Donc, le prisme de l'armée ne doit pas être l'unique grille d'analyse, si vous voulez, sur l'évolution des régimes en place. L'Afrique est très diverse, mais je ne vous apprendrai rien en le répétant.
Alain Antil, vous souhaitez rajouter quelque chose sur le rôle de l'armée?
Oui. En fait, si on prend deux pays voisins comme le Sénégal et la Mauritanie, on a effectivement des cas de figure radicalement différents, puisqu'en Mauritanie, depuis 78, on a des généraux, enfin des colonels, puis des généraux qui se sont succédés. Donc on est en 2019, sur ces 40 ans, un an et demi de présidence non militaire. Évidemment, ce sont des militaires qui ont revêtu l'habit civil. Mais pourquoi ça se passe comme ça en Mauritanie? Parce que dont beaucoup pensent que la seule institution véritable, la colonne vertébrale du pays, c'est l'armée nationale. Mais on a des trajectoires nationales qui sont très différentes, comme le prouve ce voisinage de deux pays qui ont des traditions politiques pratiquement à l'opposé.
Alors, vous invitez dans ce dossier à sortir de l'obsession électorale, mettant en cause d'une certaine manière aussi les pays développés ou l'Occident, qui ferment les yeux tant que des élections sont organisées, peu importe la façon dont elles le sont. Vous allez même plus loin pour aborder la question des ressources naturelles, et vous écrivez que l'abondance de ces ressources protège les gouvernements de pression nationale et internationale en faveur des réformes et génère des niveaux élevés de corruption et une compétition politique plus intense, mais pas nécessairement démocratique, à l'exception du Ghana. La grande majorité des pays où le pétrole est la ressource principale ne s'inscrivent clairement pas dans un cadre démocratique. Le Nigeria peut être un cas intermédiaire ?
Oui, intermédiaire quand même. Alors oui, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure. Depuis la fin de la dictature militaire en 99, deux des quatre présidents élus étaient eux-mêmes d'anciens militaires, hein, mais qui entre-temps avaient lâché le pouvoir, qui ensuite ont été élus, ont joué le jeu des élections. Et l'armée a joué un rôle, mais peut-être pas toujours aussi important qu'on veut bien le croire. Il y a vraiment un dynamisme de la société dite civile, et puis la loi du nombre aussi qui joue, hein. C'est quand même le pays le plus peuplé d'Afrique. Mmh. C'est en train de devenir le troisième pays le plus peuplé du monde. Alors du coup, il y a quand même des questions d'échelle aussi. Hein. Mmh. C'est beaucoup plus facile d'exercer un régime autoritaire quand vous avez 1 million d'habitants à contrôler plutôt que 200 dans le cas du Nigeria. Hein. Donc moi, j'ai toujours été convaincu que une des raisons structurelles pour lesquelles le Nigeria, y compris du temps de la guerre froide, était beaucoup plus démocratique qu'en Afrique francophone, où on avait des régimes de partis uniques ou des dictatures militaires, c'était que, effectivement, il y a cette loi du nombre qui joue et qui empêche finalement la monopolisation du pouvoir par une petite clique. Ça peut pas se produire au Nigeria. Il y a toujours une répartition du pouvoir au niveau régional avec différents lobbies. Et même au niveau régional, ça suffit pas. On a besoin de monter des alliances au niveau national. Donc ça participe du jeu démocratique dans le sens où il y a du compromis. Ce qui marche beaucoup moins bien, en revanche, c'est la pratique quotidienne de la gouvernance, où là, c'est très mafieux, il y a énormément de corruption, c'est un mot qu'on n'a pas encore utilisé, mais qui caractérise énormément de ces régimes. Et effectivement, la corruption va dévoyer le jeu démocratique, c'est absolument indéniable, à travers le népotisme, le clientélisme, le favoritisme. Et là, il y a des gros soucis qu'on retrouve ailleurs, et pas seulement au Nigeria. Ça, c'est vrai.
D'ailleurs, vous avez un jeu de mots, puisque votre article a pour titre Nigeria, deux points, les effets de la démo crazy.
Oui, c'est un mot ironique en pidgin pour se moquer de régimes qui sont dits démocratiques mais qui sont plutôt des régimes fous et mafieux. Et le mot, je trouve d'ailleurs, reflète aussi, quoi qu'il en soit du retour de l'autoritarisme, aussi une certaine désillusion des Africains, de beaucoup d'Africains, par rapport à des régimes parlementaires qui sont vus comme des modèles importés de l'Occident. Donc il peut y avoir un petit rejet nationaliste à cet égard. Et des régimes qui fonctionnent pas bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'ils appellent les dividendes de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratisation ou les transitions démocratiques, suivant les noms qu'on veut leur donner, ne se traduisent pas forcément par des croissances économiques plus soutenues et surtout plus redistributives. Donc là, il y a une désillusion qu'on voit aussi au Mali. Hein. On en parlait brièvement tout à l'heure, où là, il y a un terme, je ne sais pas dans quelle mesure il fait fureur, qui est aussi très moqueur, comme au Nigeria, qu'on appelle la denbocratie, qui est un mot bambara, qui renvoie à l'idée à la fois d'un régime de vaurien, à l'idée d'excrément, une sorte de régime de merde, en quelque sorte. C'est-à-dire l'idée que, finalement, la démocratie n'est qu'un peu qu'une illusion qui n'empêche pas les caciques de continuer, en fait, à contrôler le pays, notamment la gestion de ses ressources et les revenus afférents.
Thierry Vercoulon, vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Oui, pour continuer sur ce que tu disais, je crois qu'il y a en effet l'apparition de régimes qui sont le degré zéro de la démocratie, parce que justement, comme tu le soulignais, sont des régimes qui sont très corrompus et où la classe politique n'arrive pas à apporter des réponses sociales et économiques aux problèmes de la population. Et c'est, en effet, l'expression « democracy » et les autres traduisent bien ce sentiment populaire à l'égard de ces régimes et le questionnement qu'il y a en Afrique sur « bon d'accord, la démocratie c'est très bien, mais est-ce que ça répond à nos problèmes quotidiens ?» Et ce discours nourrit évidemment la critique de la démocratie dans certaines parties de l'Afrique. Et c'est ça le problème des démocraties non performantes, c'est-à-dire qui ne solutionne pas les problèmes socio-économiques des populations, est maintenant critique. Et le retour d'un certain autoritarisme en Zambie et en Tanzanie s'est fait sur cette constatation, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes très graves dans nos pays socio-économiques. Les 15 ans ou 20 ans de démocratie n'ont pas permis de les résoudre. Donc maintenant, il faut passer à une gouvernance plus autoritaire. Si on était en Europe, on parlerait sans doute de démocratie populiste quand on pense à ce que fait le président Magufuli en Tanzanie.
Démocratie non performante, Marc-Antoine Pabre de Monclos.
Oui, et il y a aussi une autre option qui est proposée, quoi qu'il en soit, de l'autoritarisme, notamment dans l'Afrique musulmane et sahélienne essentiellement, c'est de savoir dans quelle mesure l'islam ne proposerait pas un contre-projet de société, vous voyez, donc une islamisation de la gouvernance, puisque les modèles nationalistes des indépendances ont failli, l'idée d'État-nation, et puis ensuite l'idée de ces transitions démocratiques des années 90 post-guerre froide, ont souligné leurs limites, et donc il y a beaucoup de gens qui s'interrogent pour savoir dans l'Afrique sahélienne musulmane dans quelle mesure l'islam ne pourrait pas être justement une solution. D'où le succès que l'on voit aussi dans les demandes d'application plus stricte de la charia, vous voyez, du droit coranique et de toute l'éthique qui va avec la charia, avec l'idée que finalement les valeurs du Coran seraient les valeurs essentielles des Africains musulmans.
Islam, une solution, point d'interrogation, Alain Antil ?
Dans toute la bande sahélienne, c'est une tendance lourde que l'on voit dans les opinions publiques. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que le champ partisan des partis politiques n'arrive plus à produire des projets de société. C'est ailleurs que ces projets sont en train de se développer. Et effectivement, au Mali, comme au Niger, comme en Mauritanie, beaucoup sont convaincus qu'un nouveau type de régime bâti sur un référentiel plus directement musulmans serait peut-être moins corrompu, que la charia est une alternative intéressante dans la mesure où un des gros échecs des pays sahéliens, mais c'est équivalent aussi dans d'autres pays d'Afrique, c'est les systèmes judiciaires qui sont épouvantablement corrompus. C'est un des vecteurs par lesquels les courants, disons, de l'islam politique, mais aussi d'une certaine manière les salafis djihadistes, vont marquer les esprits, gagner des points, progresser dans les opinions publiques, parce que ils vont établir des tribunaux alternatifs à la justice nationale et qui fonctionnera plus rapidement, de manière moins corrompue, tout en étant certainement plus dur. Mais ça, c'est un des vecteurs par lesquels cette nouvelle société va naître.
Mais alors, finalement, est-ce que le Soudan, l'exemple du Soudan n'est pas un contre-exemple de ce que vous dites là à propos de l'islam comme solution, point d'interrogation, Marc-Antoine Pérouse de Monclos?
Bon, je préconisais pas l'islamisation du politique, mais je soulignais que par les carences, puis il y a un point quand même qui est aussi notable, et je crois que là on peut peut-être un peu généraliser sur l'ensemble du continent, c'est l'inconsistance des programmes idéologiques des partis. Il n'y a pas de... Le Soudan est un peu d'ailleurs une exception, encore une fois, et l'Afrique du Sud également, mais il n'y a pas de grands partis travaillistes ou communistes. Donc il n'y a pas de contre-projet. En fait, on se bat, les partis en lice au moment des élections sont des partis qui reflètent des intérêts régionaux, des alliances qui se sont construites au niveau national, mais c'est plutôt on vote sur des personnes et très très peu sur des programmes en réalité. Et donc effectivement, là, ce contre-projet à travers l'islam, qui exprime aussi une demande de justice sociale à travers la charia, du coup il n'en apparaît que plus fort, même si, et vous avez bien raison, même si la désillusion elle est évidente au Soudan sur les mérites d'un islam politique, et d'une certaine manière, elle l'est aussi au Nigeria, dans le nord à dominante musulmane. On estime qu'il y a à peu près 50% de chrétiens et 50% de musulmans. C'est vraiment des estimations à la louche, parce qu'on n'a pas de recensement là-dessus depuis 1953. Puis il y en a qui rajoutent qu'en fait on a 100% d'animistes, mais ça c'est encore autre chose. Mais que sur cette composante musulmane du Nigeria, il y a eu une demande très forte d'une extension du domaine d'application de la charia au sortir de la dictature militaire en 99. Et la population a bien vu qu'en réalité, cette extension du domaine d'application de la charia ne menait à rien. Elle n'a pas permis de combattre la corruption. Les riches ont continué de se servir dans les caisses de l'État sans pour autant être punis. Les seuls qui ont été victimes d'une brutalisation du mode d'emploi de la charia, c'était plutôt les pauvres. Et donc là, il y a aussi une désillusion très forte, et pas seulement au Soudan. Il n'en reste pas moins que l'islam reste souvent présenté comme une alternative possible.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Thierry Vircoulon et Alain Antil après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la démocratie en Afrique, nous retrouvons nos invités. Thierry Vercoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI et enseignant à Sciences Po Paris. Alain Antil, directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI et Marc-Antoine Pérouse de Monclos, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission cette notion de démocratie non performante, l'absence de réponses sociales et économiques aux problématiques des pays en Afrique et puis une certaine inconsistance dans les programmes politiques, et on évoquait l'islam comme contre-projet de société en Afrique, Alain Antil.
Oui, c'était pour dire tout à l'heure, on évoquait ce sujet pour le Sahel en disant que les opinions publiques étaient de plus en plus convaincues qu'un autre type de régime plus branché sur des référentiels islamiques serait peut-être souhaitable à ces démocraties non performantes. Mais je voulais revenir sur cette idée, il faut pas croire que les opinions publiques soient monolithiques, et il y a évidemment dans ces pays des gens qui sont sincèrement démocrates et qui militent pour la démocratie dans la société civile. Donc il faut pas se convaincre d'opinion publique qui serait soit contre ou soit tout pour la démocratie ou la charia.
Alors, je voudrais revenir par ailleurs pour élargir, effectivement, on évoquait le retour d'un certain autoritarisme qui relève aussi largement, on ne les a pas évoqués, de la faillite des partis d'opposition traditionnels. On l'a juste dit à propos de l'inconsistance de programmes politiques. Il y a de facto un émiettement partisan et la capacité des partis à exister en dehors des campagnes électorales est finalement assez limitée. Est-ce que le déclin des partis d'opposition signifie absence d'opposition ? Thierry Vercoulon.
Non, on voit bien que ces sociétés ont besoin d'opposition et que quand il y a un vide d'opposition, parce que les partis d'opposition traditionnels ne séduisent plus et sont effondrés, émergent d'autres formes d'opposition qui viennent de la société civile, qui sont très souvent prises, exprimées par l'Église catholique ou d'autres églises, et par des mouvements citoyens qu'on a vu naître ces dernières années en provenance surtout de la jeunesse. Et donc, on sent bien que quand il n'y a pas d'opposition politique, ce vide doit être comblé par d'autres mouvements. Et le problème, c'est que souvent, ces mouvements de la société civile manquent de capacité organisationnelle et aussi ont leurs limites dues à leur nature. Et donc, est-ce qu'ils peuvent se formaliser en nouveaux partis politiques ? La question reste ouverte, parce que on a vu, en prenant l'exemple de la RDC, que les mouvements citoyens qui sont apparus à partir de 2015-2016 ne se sont pas formalisés en partis politiques et surtout ont refusé cela, parce que la classe politique est extrêmement discréditée et tous les partis politiques sont discrédités. Donc cette forme d'opposition est une opposition citoyenne, une opposition de rue qui ne veut pas rentrer dans le jeu politique traditionnel partisan.
Alors, pas de capacité organisationnelle, mais les réseaux sociaux sont là, comme de nouveaux espaces de contestation.
Oui.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Oui, et puis le rôle de la jeunesse, qui est extrêmement important, qu'on soit dans une Afrique musulmane ou chrétienne, et quoi qu'il en soit par ailleurs du rôle de la religion, on voit souvent de la contestation des jeunes contre les anciens. Et je trouve que cette contestation, elle marque aussi, justement, disons, l'absence de renouvellement de la classe politique. C'est quand même assez effarant. Alors, les intervalles vont effectivement évoluer, les séquences, la longueur des séquences change d'un pays à un autre. Alors, il y a des pays où les présidents en place sont, disons, là depuis très très longtemps. Là, je pense au cas du Tchad, où Idriss Déby est au pouvoir depuis 1990, ou Paul Biya au Cameroun, qui lui est au pouvoir depuis 1982. Mais même dans des pays où, finalement, on reste moins longtemps au pouvoir, c'est quand même les mêmes qui reviennent au bout d'un moment. Et là, il y a une absence de régénérescence, de renouvellement de la classe politique qui est inquiétante et qui explique aussi pourquoi cette jeunesse s'exprime très fortement sur les réseaux sociaux, avec peut-être deux modes d'expression. L'un qui vilipende finalement la fossilisation des régimes en place, mais l'autre qui est inquiétant, qui justement critique le parlementarisme ou les élections ou la démocratie comme étant un moyen de renouveler la classe politique.
Alors, on va poursuivre. On a parlé du Nigeria, on n'a pas évoqué, on y reviendra peut-être plus tard avec vous, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, la question de Boko Haram, symbole de la faiblesse de l'État. Vous avez, je l'ai dit en introduction, étudié un certain nombre de pays. Je me tourne vers vous, Alain Antilles, la Mauritanie. Vous évoquez les évolutions paradoxales de la démocratie mauritanienne. Vous parlez de dysfonctionnements récurrents lors des élections et surtout l'existence d'un bloc hégémonique qui contrôle le pays.
Oui, parce qu'on a évoqué tout à l'heure les élections, mais il faut bien se convaincre que les élections sont souvent par nature biaisées. Pas seulement pour des raisons de trucage massif, mais tout simplement parce que les gens qui sont au pouvoir ont des moyens beaucoup plus importants que leurs opposants. Ça coûte très très cher de faire campagne, d'avoir des antennes dans tout le pays, d'avoir une présence dans le pays. Les gens qui sont au pouvoir et qui se représentent bénéficient à la fois de budgets publics conséquents et aussi de budgets privés venant des grands commerçants et des hommes d'affaires. Et il faut évoquer ce point très important, c'est que dans beaucoup de pays, quand on est un homme d'affaires et qu'on veut accéder aux marchés publics, aux licences d'importation, donc à la bienveillance du politique, on n'a pas intérêt à financer les partis d'opposition. Donc il y a quelque chose de mécanique qui fait que, comme en Mauritanie, on n'a pas besoin de recourir à des trucages massifs. Il peut y avoir des petits problèmes dans certains bureaux de vote, évidemment, mais on n'a pas besoin de trucages, comme ça a été le cas d'ailleurs au début des années 90, lors de l'établissement de la démocratie en Mauritanie. Les premières élections présidentielles en 92 ont clairement été volées. Ce n'est pas le président Ouattara qui a gagné, c'est Ahmed Ould Dada. Ça, c'est à peu près clair pour tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, le pouvoir n'a pas besoin de truquer aussi massivement les choses, parce que mécaniquement, il y a plusieurs facteurs qui jouent en faveur des gens qui sont déjà au pouvoir. C'est-à-dire qu'il est très difficile de sortir les sortants, en fait.
Alors, Marc-Antoine Perros de Moncourt.
Non, juste un petit point pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le fait que les Africains aient le sentiment que les résultats des élections sont connus à l'avance participe justement de la désillusion sur les régimes démocratiques. Une anecdote aussi qui me vient à l'esprit, en 2000, j'étais à Khartoum, Bachir était encore au pouvoir à l'époque, il y avait des élections, on connaissait tous le résultat à l'avance, et au même moment, il y avait des élections aux États-Unis mais qui étaient contestées. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette histoire avec George Bush, il y avait des contestations dans l'État de Floride, ce qui fait qu'un mois après les élections aux États-Unis, on connaissait toujours pas le résultat. Et la blague que je trouve très significatif qui circulait à Khartoum, c'était: connaissez-vous la différence entre des élections aux États-Unis et des élections au Soudan? Au Soudan, c'est beaucoup plus performant et moderne, puisqu'on connaît les résultats un mois avant les élections, alors qu'aux États-Unis, un mois après, ils le savent toujours pas. Et je trouve que ce genre de blague est très significatif, en fait, de la désillusion qu'il peut y avoir sur des régimes dits parlementaires ou le Soudan islamiste et dictatorial se déclarait aussi démocratique. Hein. Il y a des pays comme le Congo, et Thierry peut bien en parler, la République démocratique du Congo. Quand un pays a besoin de marquer dans son intitulé officiel qu'il est démocratique, c'est bien qu'il y a un souci. Donc voilà, l'impression que les résultats sont connus à l'avance participe de cette désillusion qui, peut-être encore plus que le retour de l'autoritarisme, est inquiétant sur le devenir des régimes politiques en Afrique.
Alors, désillusion, Thierry Vercoulon, vous avez étudié la RDC et vous dites qu'en RDC, comme en Centrafrique, les anciennes élites sont toujours au pouvoir et le fonctionnement institutionnel reste une apparence de démocratie.
Oui, pour continuer sur ce qu'on vient de dire, on s'aperçoit que dans un certain nombre de pays, le marché politique est bloqué. Soit il est dominé par une famille, et donc on a des effets de dynastie politique, que ça soit au Congo, au Gabon ou en Guinée équatoriale. On a même actuellement d'autres présidents, comme le président ougandais, qui songe aussi à une formule de succession dynastique. Ou alors, le marché politique est bloqué par un oligopole de groupes d'intérêt, comme on le disait au sujet de la Mauritanie ou au sujet du Nigeria. Et donc c'est ça qui alimente aussi cette désillusion à l'égard de la démocratie électorale, c'est que il y a vraiment un oligopole politique qui a monopolisé le pouvoir et qui a tous les leviers et donc qui peut se permettre d'aller aux élections et être sûr du résultat. Et donc c'est ce blocage du marché politique qui entretient une grande désillusion. Et en RDC, on voit bien que on a eu en fait des régimes d'héritiers. On a maintenant la dynastie Kabila, père d'abord et puis fils ensuite, qui est au pouvoir depuis 20 ans maintenant, qui a fait semblant de lâcher le pouvoir avec les dernières élections, mais qui est encore beaucoup aux manœuvres, et on va voir comment ça va se passer. Et on note également que le nouveau président est aussi un héritier politique, puisque il est aussi d'une autre famille politique. Donc on voit que c'est un pays, d'un côté la dynastie Tshisekedi et de l'autre côté la dynastie Kabila, où là aussi il y a une monopolisation de la classe politique.
Alain Antil.
Oui, pour rebondir sur ce que Marc-Antoine disait à propos du Soudan et du fait qu'on connaît les résultats à l'avance, c'est d'autant plus dommageable que ça crée des systèmes d'inertie politique. Puisque quand on est une communauté rurale et qu'on sait qui va gagner, on n'a pas du tout intérêt à s'inscrire contre ceux qui vont gagner, parce qu'on s'expose à des sanctions économiques. On va pas nommer de cadres qui viennent de cette communauté. S'il y a des projets de développement qui viennent de pays amis, on va dissuader ces agences de développement d'investir dans cette région. Et on va plutôt les guider vers des gens qui ont bien voté. Et de la même manière, dans le tissu économique, ça donne des entreprises qui, plutôt que de travailler la qualité de leur réponse aux appels d'offres, vont travailler la qualité de leur relation avec le parti au pouvoir. C'est des systèmes d'inertie un peu terribles.
Alors, système d'inertie, il est peut-être intéressant, ce stade de l'émission, d'aborder le contexte international dans lequel se produit ce retour de l'autoritarisme. La Chine, régime autoritaire qui a réussi par excellence, très présente en Afrique aujourd'hui, et puis d'autres puissances émergentes ou réémergentes comme la Russie, la Turquie, l'Arabie Saoudite et plus récemment le Brésil, plébiscite également cet autoritarisme. Donc finalement, c'est un courant assez général. Thierry Vercoulon.
Oui, disons qu'il a le vent en poupe actuellement, vu la reconfiguration des relations internationales, où d'un côté on a ce que j'ai appelé tout à l'heure la Ligue des dictateurs extraordinaires, et de l'autre côté des pays occidentaux qui sont en plein doute et qui sont de plus en plus désunis depuis que Trump est à la Maison Blanche. Donc les Africains regardent cette reconfiguration des relations internationales et voient aussi comment ils peuvent en tirer profit. Et comme pour le moment, en effet, c'est surtout la Chine qui investit massivement en Afrique, avec d'autres pays derrière, comme la Turquie qui s'intéresse beaucoup à la Corne de l'Afrique, et aussi les pays du Golfe qui ont commencé à investir sérieusement les pays au Sahel. Ils voient bien tout le bénéfice, en tout cas les dirigeants des pays africains voient bien tout le bénéfice qu'ils peuvent tirer à un réalignement diplomatico-politique avec ces nouveaux émergents.
Marc-Antoine Pérez de Monclos, Alain Antil.
Disons, depuis la fin de la guerre froide, où c'était plus binaire, on va dire, entre Est et Ouest, il y a une sorte de multipolarisation, je ne sais pas si on peut parler de démocratisation, de l'offre de soutien et des offres de financement pour les Africains. Alors certains peuvent aussi s'en réjouir, hein. Ça donne plus de capacité aux pays africains à finalement choisir leurs alliances à l'international qu'autrefois. Donc on peut aussi positiver de ce point de vue, tout n'est pas négatif. Bon, ce qui caractérise la Chine, dit-on, c'est qu'elle serait moins, il y aurait moins de conditionnalité politique sur l'organisation des régimes en Afrique, et donc ce serait plus une relation uniquement de business, mais qui du coup peut effectivement peut-être même dans certains cas se complaire à travailler avec des régimes qui ne sont clairement pas démocratiques. Et les grandes avancées de la Chine en Afrique, c'est plutôt du côté du Soudan et de l'Angola, qui sont décidément des régimes peu démocratiques, même si sur l'Angola ça a un petit peu bougé, mais enfin bon, on reste quand même dans un des rares héritiers de régimes de parti unique.
Alain Antil, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
La démocratisation du début des années 90, évidemment, procède de processus internes, mais aussi de processus externes. C'est-à-dire qu'on a un changement complet des relations internationales. On a une partie de la communauté internationale qui va faire pression sur les régimes d'Afrique subsaharienne pour qu'ils se démocratisent. Pensons, aux conférences nationales pour les pays francophones. Ça n'est pas totalement en décalage avec des nouvelles politiques qui se mettent en place, la conférence de la Baule, le consensus de Washington. Donc il y a une espèce d'aiguillon, surtout occidental, qui se met en place pour que ces régimes se démocratisent. Aujourd'hui, comme il vient d'être dit, on n'a plus ce tête-à-tête entre Occident et Afrique subsaharienne, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants. Et ça permet à ces pays, comme disait Marc-Antoine, d'avoir des marges de manœuvre vis-à-vis du bloc occidental pour finalement trouver des voies qu'ils trouvent appropriées, mais qui, pour le coup, s'éloigne du référentiel démocratique.
Alors, quel rôle pour l'Union africaine et pour la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans ces processus politique en Afrique et
alors sur la CEDEAO, on a vu ces dernières années la CEDEAO intervenir, je pense notamment au Mali, quand il y a un coup d'État et il y a une junte qui s'installe au pouvoir, il y a une espèce de pression des pairs à travers la CEDEAO qui va s'exercer pour que la junte ne s'éternise pas au pouvoir. Par contre, sur les processus électoraux, la CEDEAO comme l'UA, souvent avalise les résultats, quelle que soit la qualité des processus.
C'est le Soudan actuellement qui va tester la volonté démocratique de l'UA et de l'organisation régionale aussi, de l'IGAD, puisqu'il y a une vraie pression pour qu'il y ait une transition démocratique et que l'armée lâche le pouvoir au Soudan. L'UA s'est impliquée. On va voir si ils ont suffisamment d'influence pour faire basculer la situation vers une transition démocratique. Mais ce qu'on constate lorsqu'on regarde l'UA et les organisations régionales, c'est que ils ne se préoccupent que de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension électorale de la démocratie, c'est-à-dire la forme, mais pas du tout du fond.
Puisque les motifs, c'est aussi beaucoup les préoccupations de stabilité régionale. Voilà, quand il y a un coup, ça arrive encore de temps en temps en Afrique, même si c'est de plus en plus rare, mais quand il y a un coup d'État, je crois que la perspective, elle est d'abord sur les inquiétudes relatives à une éventuelle déstabilisation régionale. Alors là, les organisations régionales, effectivement, se mobilisent. Pour ce qui est des pratiques de gouvernance au quotidien, les arguments de souveraineté nationale, de non-ingérence continuent de prévaloir.
Alors le rôle des sociétés civiles, on l'a abordé à plusieurs reprises. C'est un peu la trame finalement. Vous avez souligné l'absence de réponse sociale et économique aux problèmes des pays. On l'a vu au Soudan, peut-être avec la société civile qui est descendue dans la rue, l'Algérie. Est-ce que ceci vous semble être un mouvement qui aurait tendance à prendre corps, Thierry Vercoulon?
C'est la suite. Alors on va voir si c'est une suite heureuse ou pas heureuse d'un événement qui lui-même était assez difficile, ce qui est les printemps arabes. Voilà ce qui se passe à Khartoum et en Algérie. On a la deuxième vague, si je puis dire, des printemps arabes. Et évidemment, on espère tous que ça se passe mieux que la première vague. On voit bien que ce sont des populations qui ont un ras-le-bol très fort des régimes fossilisés qui étaient en place. Et dans ce ras-le-bol, il y a une forte composante de révolte de la jeunesse. Il ne faut pas oublier que c'est des pays qui nourrissent l'immigration et qu'une des façons d'ailleurs d'exprimer cette révolte, c'est de quitter le pays. Et qu'une partie de la jeunesse soudanaise a voté avec ses pieds pendant ces dernières années en traversant le désert pour s'enfuir, partir en Libye et essayer de monter vers l'Europe. Donc on voit bien qu'en effet, il y a ce ras-le-bol populaire. Je pense qu'au Zimbabwe aussi, le ras-le-bol populaire est en train de monter avec la même situation de conflit générationnel entre voilà une population dont l'âge médian est de 20 ans et des gens qui sont au pouvoir depuis l'indépendance, qui ont actuellement 75 ans. Donc dans ce ras-le-bol populaire, il y a cette composante de conflit générationnel qui est très fort, où la population demande, que ce soit en Algérie, au Soudan, et peut-être demain au Zimbabwe, à ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans, de partir, tout simplement.
Révolte, ras-le-bol populaire, en guise de conclusion, Alain Antil.
Sur le non-renouvellement des classes politiques, on pourrait citer la Côte d'Ivoire, où depuis finalement début des années 90, on a trois acteurs majeurs qui se disputent la présidence. Évidemment, il y a des seconds couteaux, mais ça reste confiné entre des relations entre Monsieur Ouattara, Bédié et Laurent Gbagbo. Et puis effectivement, les sociétés sont très très jeunes. Dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, c'est l'âge médian est même de 16 ans. Mmh. Le marché de l'emploi est complètement déprimé. Dans un pays comme le Mali, le marché formel de l'emploi absorbe à peine 10% des entrants chaque année sur le marché de l'emploi. Donc si on met de côté les gens qui travaillent à la campagne, ça fait entre 30, 40, 45% des jeunes qui rentrent annuellement sur le marché du travail qui n'ont pas leur place. Donc qui trouvent dans l'informel, dans la migration, dans les trafics ou dans des processus de clientélisation politique, des moyens de survie. Mais c'est quand même assez déprimant pour ces générations.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Alain Antil. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Thierry Vercoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI et enseignant à Sciences Po. Et Marc-Antoine Pérouse de Monclos, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Je rappelle aussi donc ce dossier du dernier numéro de Politique étrangère, publication de l'IFRI, La démocratie en Afrique, tours et détours. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Nathalie Laporte, Véronique Durand et Louisa Abrit. À la semaine prochaine.